Bonjour, je m'appelle Abderrahim, je suis en PSTMG1. Nous sommes ici aujourd'hui pour interviewer Valé Sanchez, responsable de la coopérative Norandino au Pérou et deux bénévoles de l'association Artisans du Monde. Mes camarades de la classe et moi-même, nous allons poser des questions en lien avec les séquences de management traitées en cours. Nous sommes en compagnie de moi-même. Je présenterai la séquence Pourquoi est-il nécessaire d'organiser l'action collective? Je poserai les questions à Madame Valé Sanchez. Noura présentera la séquence Pourquoi est-il nécessaire d'organiser l'action collective? Elle posera les questions aux deux bénévoles de l'association Artisans du Monde.
Inayan qui nous présentera la séquence comment interpréter le diagnostic stratégique et le traduire en objectif, comment appréhender la diversité des organisations. Elle posera les questions aux deux bénévoles, association Artisans du Monde. Marius qui nous présentera la séquence qu'est-ce que le management des organisations. Il posera les questions aux deux bénévoles, Artisans du Monde. Et pour finir, nous poserons des questions sur le commerce durable. Bonjour Madame Valé Sanchez, pourriez-vous vous présenter en quelques mots?
Buenos días, mi nombre es Evelyn Valle Sánchez, vengo desde Perú, desde el norte de Piura, representando a la cooperativa agraria Norandino.
¿Qué tan complicado diría usted que es organizar una acción colectiva?
Pues no es muy complicado, hay que organizarse ante todos, que todos tengan voluntad para poder hacer la actividad o el trabajo que se realiza.
Donc, ce que Madame Valé Sanchez vient de dire, c'est que c'est pas vraiment trop dur, c'est ce qu'il faut, c'est de l'organisation et que tout le monde soit déterminé, quoi. Comment fonctionne una SCOP en Pérou?
Funciona con muchos productores, teniendo la voluntad de cada uno de ellos, pero también hay que realizar evaluaciones a cada uno de los productores para que puedan cumplir con muchos requisitos o que requiere un ente organizativo, que requiere una cooperativa. Lo principal es abarcar o tener a los productores que estén dispuestos a trabajar.
Donc, ce qui est principal, c'est d'avoir des producteurs qui soient disposés à travailler. Il faut qu'ils arrivent à certains niveaux pour produire. Quel est le recurso más complicado de financiar?
Un recurso más complicado en nuestra cooperativa, quizás, no sé, organizar a los productores, un poco el financiamiento, ¿sí? Un financiamiento para poder mejorar nuestra producción, diría.
Donc, ce qui est ressources humaines, l'organisation, et ressources financières. Comment consiguió usted fundar un comercio equitable basado sobre el medio ambiente?
A través de mejoras o implementación de muchas áreas forestales, trabajos con organizaciones, con colegios, para mejorar nuestro ámbito o entorno laboral, nuestra vida familiar, producción de árboles. En la reforestación tenemos más de 1.000 hectáreas plantadas y continuamos reforestando, mejorando y para que estos productos sean saludables, sean de comercio justo, sean equitables. Trabajamos mucho con nuestros productores para mejorar el bienestar de sus familias campesinas.
Donc la question en français c'était comment avez-vous fondé un commerce équitable basé sur l'environnement? Et donc la réponse c'est avec la forestation. Donc en plantant tout ce qu'il leur faut et pour créer un produit qui est bon pour la santé et qui aide l'environnement et les gens qui le consomment. Tout ça c'est fini pour mes questions. Je passe à Noura.
Pourquoi est-il nécessaire d'organiser du coup l'action collective?
Il est nécessaire d'organiser l'action collective pour faire prendre conscience au grand public des inégalités qui traversent notre monde, notamment entre les pays du Nord et les pays du Sud. Et cela passe par une prise de conscience que nous appelons, d'un terme un peu difficile, le plaidoyer, c'est-à-dire des interventions auprès des décideurs économiques ou politiques ou sociaux, de faire un effort sur l'amélioration des relations commerciales entre les pays du Nord et les pays du Sud. Ce n'est pas facile, mais c'est une nécessité d'organiser cette action collective, de faire prendre conscience de ces choses-là. C'est ce que nous essayons de faire.
D'accord, merci pour votre réponse.
Donc maintenant, on aura les questions à Inaya.
Grâce aux documents qui nous ont été attribués, nous avons choisi les sous-thèmes « L'association Artisans du Monde » et la question est comment appréhender la diversité des organisations. Et grâce à ce sous-thème, on a formé trois questions en lien avec les notions, donc la finalité, les biens, les services, le secteur d'activité, le partenariat public-privé et les financements privés. À l'avenir, quels services pourriez-vous proposer au sein de l'organisation ?
Bon, la question est un petit peu difficile. Effectivement, ce thème du commerce équitable, nous essayons de le développer dans le domaine privé, bien sûr, on vient de le voir, le commerce vers les particuliers, mais aussi vers les pouvoirs publics. Et tout à l'heure, je parlais des actions de plaidoyer, de sensibilisation des acteurs publics. C'est ce que nous essayons de faire, notamment en Occitanie, où en intervenant auprès des responsables de la région, nous avons obtenu une prise en compte de la nécessité d'inclure du commerce équitable dans la restauration collective, par exemple, dans les établissements scolaires, un petit peu de la même façon que les produits biologiques, bio, ont été intégrés un peu par une loi en 2014 sur la nécessité de consacrer, si possible, 20% de produits au bio. De la même façon, a été réservée une place pas très définie, mais qui est à prendre en compte dans les achats publics vers des achats solidaires et engagés tels que ceux proposés par le commerce équitable.
Comment l'organisation réinvestit-elle son financement afin d'améliorer leur association ?
Bien, réinvestir, en fait, les crédits qui permettent l'association nationale de fonctionner sont basés sur les cotisations des membres individuels, puisque la Fédération nationale d'artisans du monde, comme son nom l'indique, est une fédération d'associations locales, d'une centaine d'associations locales en France, qui, dans les magasins où ils vendent des produits du commerce équitable, contribuent financièrement au fonctionnement de l'organisation. À part cela, cette sensibilisation que nous faisons sur le commerce équitable au niveau national auprès des députés, par exemple, pour proposer des projets de loi qui incluent la prise en compte du commerce équitable, ou auprès des députés européens qui font la même chose dans ce domaine-là, nous arrivons à obtenir des financements qui permettent, tant bien que mal, à l'organisation de vivre et de perdurer. C'est ainsi que nous voyons la chose.
On peut peut-être ajouter, en fait, puisqu'on est une association, il y a vraiment un but non lucratif. Mais donc, pour notre fonctionnement, on va fonctionner, par exemple, avec des subventions. Donc, au niveau national, on est à la fédération 8 salariés. Et donc, nos postes de salariés sont financés via ces subventions. Par exemple, au sein de l'AFD, l'Agence française de développement, qui nous subventionne à hauteur de 60%. Et pour les autres financements, ce sera justement nos associations locales. On a une centaine d'associations locales partout en France qui, du coup, nous, via leur chiffre d'affaires, reversent 7% de leur chiffre d'affaires en cotisation pour aussi pallier aux 40% du coup dont on a besoin pour financer le reste des postes. Mais il n'y a pas vraiment de réinvestissement puisque on est une association à but non lucratif et on fonctionne vraiment avec des bases de subventions et c'est plutôt le grand enjeu de où trouver ces financements dans le milieu associatif. Donc c'est des réels enjeux qui sont questionnable pour l'avenir aussi. Donc voilà, ensuite nos organisations productrices sont rémunérées à leur juste valeur via les principes du commerce équitable et ils ont aussi une prime de développement qui leur permet de proposer des projets collectifs comme à Norandino et d'autres coopératives qui ont vraiment un fonctionnement démocratique et réfléchissent à des projets sur place pour investir leur coopérative.
Comment l'organisation gère-t-elle les ventes locales, nationales et internationales ?
Je dirais un mot simplement des ventes locales, puisque je suis bénévole dans une association locale du Gard, à Nîmes. Le magasin est tenu de façon associative, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de salariés qui est employé dans le magasin. Il n'y a pas de patron, c'est un conseil d'administration de l'association qui décide de la façon dont les marges sont établies pour pouvoir survivre, pour pouvoir faire vivre l'association et les répondre aux obligations financières qui sont les siennes, les frais fixes, location, etc. C'est ainsi que nous établissons le fonctionnement financier de l'organisation. Après, nous faisons des choix de produits qui répondent aussi aux moyens financiers dont nous disposons et aux possibilités de vente de ces produits que nous avons achetés à travers une centrale d'importation qui s'appelle essentiellement Solid Armand dans la région parisienne, ou auprès d'autres organisations européennes qui vendent des produits de commerce équitable. Donc nous faisons nos choix financiers en fonction des coûts que cela peut induire, mais également en fonction des possibilités de revente. Ça, c'est au plan local.
Et finalement, au plan national, donc la Fédération Artisans du Monde, elle pilote surtout deux piliers, puisque quand on revient au mouvement Artisans du Monde, c'est un mouvement associatif qui effectivement vend des produits équitables via ses boutiques associatives, mais elle a aussi deux rôles essentiels qui sont donc la sensibilisation et le plaidoyer. Et donc nous, au niveau de la Fédération, on va surtout outiller nos bénévoles partout en France pour leur action de plaidoyer, leur action de sensibilisation. Et finalement, les ventes se font, on peut dire que les ventes nationales, elles se font via toutes nos boutiques associatives, donc une centaine partout en France. Mais en tout cas, on n'a pas vraiment, nous, la Fédération, on n'a pas de magasin associatif et on ne vend pas directement les produits équitables. C'est vraiment via nos bénévoles. Donc on en a 2500 partout en France qui, s'engagent chaque jour, pour beaucoup depuis 50 ans, à vendre ces produits équitables, à transmettre le message. Parce que Artisans du Monde, avant que ce soit de la vente de produits équitables, c'est aussi transmettre un réel message sur comment redéfinir le modèle économique dominant et comment montrer toutes les inégalités que ce commerce dit conventionnel génère, que ce soit en termes de climat, de travail indécent, enfin voilà, de droits des travailleurs, travailleuses pas respectés. C'est essayer de transmettre tous ces messages et re-questionner toute une filière économique et comment la rendre plus durable, plus juste socialement.
Dans quel mouvement s'inscrit le commerce équitable ?
Le commerce équitable s'inscrit dans un mouvement très général qui s'appelle la solidarité internationale. Nous essayons de faire jouer cette solidarité à travers l'exemple du commerce, mais également de l'éducation. C'est la raison de notre présence ici parmi vous. Elle est parallèle au mouvement caritatif, mais ce n'est pas la même démarche. Nous avons une démarche plus de solidarité que de caritatif, bien que souvent les deux se rejoignent et nous sommes amenés à travailler ensemble avec des grandes organisations caritatives. Ça existe aussi.
Je pense que ce qui est très intéressant avec le commerce équitable, c'est qu'il est à la croisée de plein d'autres dynamiques. Donc on rentre dans le champ de l'économie sociale et solidaire, on rentre dans le champ des objectifs du développement durable via l'objectif numéro 12, la consommation responsable, la production responsable. Donc finalement, il est à la croisée de plein de thématiques. On peut parler d'environnement, on peut parler d'égalité de genre, de migration. Donc on peut faire des ponts via le commerce équitable. Donc c'est ça qui le rend très intéressant. Parfois, on ne parle pas directement du commerce équitable, mais on va parler de justice climatique, d'égalité de genre. Et justement, un message aussi qu'on a envie de transmettre, c'est que le commerce équitable, quand il est né, c'était aussi, à la base, les producteurs-productrices qui juste demandaient à ce que leur travail soit justement rémunéré et aussi déconstruire cette idée reçue des aides humanitaires, de la charité et aussi de montrer qu'on va plus loin que la charité et que c'est vraiment juste rémunérer de manière digne des producteurs-productrices, que ce soit en France, en Europe et à l'autre bout du monde.
Mes questions sont désormais terminées. Merci de votre écoute.
Donc, finalement, on aura les questions à Marius.
Donc, pour finir, je vais vous poser quelques questions. En tant que bénévole, comment organisez-vous votre travail ?
Disons que le bénévolat, c'est un engagement individuel de donner un peu de son temps pour l'activité que nous avons, qui nous semble importante, que nous avons choisie. Le temps consacré à cette activité peut être très variable suivant les domaines d'activité. Ça peut être un travail à la maison en informatique, préparation des présentations qui seront faites dans les établissements scolaires, par exemple. Ça peut être une préparation de panneaux d'exposition qui serviront à divers endroits. Notamment les réunions d'associations annuelles pour présenter les associations d'un département ou d'une ville. Quant à la partie commerciale proprement dite, la boutique exige des plages horaires de fonctionnement, environ 3 heures le matin, 2h30 le matin, 3 heures l'après-midi. Et la difficulté pour organiser son temps, c'est de trouver des bénévoles qui soient décidés à consacrer régulièrement une plage horaire à cette activité. C'est un défi qui nous est posé. À l'inverse d'autres organisations où on peut participer en venant une heure par-ci, par-là, le commerce, lui, implique une régularité qui est un petit défi pour nous pour arriver à obtenir le nombre de volontaires disponibles pour ces activités.
Selon vous, est-ce que c'est les décisions stratégiques ou opérationnelles qui sont le plus bénéfiques à l'organisation ?
Disons que notre association se réunit chaque année en congrès pour décider des axes d'activité, que ce soit le développement du commerce, le développement du plaidoyer, de ces interventions que nous essayons de faire auprès des décideurs, ou que ce soit dans la diffusion de nos idées au niveau éducation des publics scolaires. C'est pas au niveau local que ces choses-là se décident. Mais c'est une réflexion commune que nous essayons d'avoir régulièrement pour dire l'association doit aller dans ce sens parce que l'avenir et la pérennité de notre fonctionnement exigent que nous fassions ceci ou cela.
Comment évaluez-vous l'efficacité du management dans votre association ?
Il n'y a pas de management au sens propre. Il y a plutôt, puisque nous sommes dans un fonctionnement essentiellement bénévole, il y a plutôt une organisation des tâches qui est décidée collectivement. Je parlais de conseil d'administration pour les organisations locales. C'est là que se décide qu'est-ce que nous allons faire, quelles opérations commercial, on dirait, dans le langage commun. Quelles opérations commerciales peut-on faire ? Quelles animations pour faire venir des clients à la boutique et leur faire connaître par la même occasion le commerce équitable ? Des signatures de livres, des présentations de produits, des dégustations de produits. Voilà un petit peu comment ça fonctionne au niveau local.
Et donc nous, à la fédération, donc on est 8 salariés, on a un délégué général et on a notre conseil d'administration qui est composé de bénévoles. Donc, ce sont des bénévoles artisans du monde qui viennent de plusieurs associations locales et qui décident de se présenter pour piloter le conseil d'administration. Et en fait, c'est ce conseil d'administration qui va nous donner les axes stratégiques et les missions pour que nous, en tant que salariés, on puisse suivre ces missions et outiller notre réseau. Donc ça va beaucoup se traduire, par exemple, pour ma part, sur l'éducation, par la création d'outils pédagogiques pour que nos bénévoles puissent aller en animation, que ce soit en milieu scolaire, mais aussi avec le grand public. Pour notre collègue en communication, ça va être outils de communication utilisés pour quelle campagne. Par exemple, là, on a lancé une grosse campagne sur le cacao qui va durer 2 ans jusqu'en 2026. Et donc, c'est l'enjeu de comment outiller nos bénévoles pour le plaidoyer, par exemple. Donc voilà, pour en termes de management, on est quand même, puisqu'on est une petite organisation, on a finalement pas tant de hiérarchie que ça, et on fait beaucoup de réunions d'équipe où on va se répartir les tâches, mais en tout cas j'ai pas le sentiment qu'il y ait beaucoup de hiérarchie puisqu'on est 8 et avec vraiment un partage assez démocratique, même des décisions, c'est pas notre délégué général qui décide tout, on est beaucoup à communiquer et décider finalement ensemble, et beaucoup en commission. On a une commission éducation composée de nos bénévoles, une commission plaidoyer composée de nos bénévoles, une commission communication composée de nos bénévoles qui vont surtout nous donner les directives pour que nous on puisse outiller selon les besoins de notre mouvement.
Ok, merci pour vos réponses.
J'ai une dernière question pour vous. Pourquoi Artisans du Monde a fait le choix de ne pas être distribué en grande et moyenne distribution ?
Alors, ce choix-là peut paraître un petit peu paradoxal, puisque c'est vrai que pour que les producteurs obtiennent un revenu décent, il faut qu'ils vendent, il faut qu'ils fassent du volume, il faut que ça soit diffusé et pour que ça puisse leur revenir. Certaines organisations ont fait ce choix-là. Elles ont pignon sur rue, ce sont nos collègues quelque part, ce ne sont pas nos concurrents, on ne va pas parler de concurrence, mais plutôt d'approches différentes. Nous avons fait le choix difficile de fonctionner en réseau de magasins associatifs. Et c'est comme cela que nous distribuons nos produits. Nous estimons, d'une part, que... Allez, je vais être un petit peu critique. Il y a une certaine indécence à vendre des produits du commerce équitable à côté de produits qui ont fait l'objet d'exploitation des producteurs avec un achat, des prix d'achat très bas et qui ne leur permettent pas de vivre correctement de leur travail. Donc, côtoyer ces produits-là, ça ne nous a pas paru pertinent. Et le deuxième élément, c'est que quand on entre dans une boutique, à l'inverse d'un rayon de supermarché où vous prenez un paquet, vous dites « je fais un geste pour le commerce équitable », ça apparaît comme un geste caritatif, ce qui n'est pas notre fonctionnement. Quand vous entrez dans un magasin de commerce équitable, vous aurez toujours quelqu'un qui vous expliquera ce à quoi sert son achat. Cet achat-là, c'est un achat qui a du sens, c'est un achat engagé. Derrière une étiquette de produit artisanal, il y a des gens qui ont travaillé pour le faire. Comment ils ont travaillé? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce sont des renseignements, des informations que l'on peut donner au client. Et ce client, quand il achète pour lui-même ou pour faire un cadeau, eh bien, il va pouvoir dire « vous avez contribué à ceci, vous avez contribué à cela ». Et cette façon de travailler permet justement, cette approche permet de faire vivre le commerce équitable d'une façon qui nous paraît plus pertinente à nous, même si c'est vrai que du point de vue des volumes, c'est la grande et moyenne distribution qui ont largement le dessus là-dessus. Mais c'est notre approche, c'est un choix délibéré.
D'accord, merci pour votre réponse.
L'interview est désormais terminée. Nous remercions d'avoir répondu présent à notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Et merci aux auditeurs et auditrices pour votre écoute. Au revoir et à bientôt sur la radio du lycée Albert Camus.